de la mi-journée.
Bonjour, c'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Un haut responsable militaire russe, Igor Kirillov, a été tué ce matin à Moscou dans l'explosion d'une bombe cachée dans un véhicule. L'Ukraine revendique cette attaque. Nous serons à Kiev dans un instant. Neige, glace et froid, ces symboles de l'hiver ont tendance à disparaître. L'Europe perd une semaine de gel par an à cause du réchauffement climatique. Avec quelles conséquences ? Une climatologue nous rejoint dans quelques minutes. Un lieu de vie et de formation pour les personnes en situation de handicap avec déficit intellectuel. Ça n'existait pas à Porrentruy dans le Jura, mais la lacune sera bientôt comblée. Vous entendrez le témoignage de personnes concernées. Dans ce journal aussi, l'Europe lance une nouvelle constellation de satellites pour concurrencer Starlink. Le Parlement fédéral veut interdire le Hezbollah contre l'avis du gouvernement. Et l'Euro féminin de football l'été prochain en Suisse qui devient beaucoup plus concret depuis le tirage au sort hier soir. Il a un air de Freddie Mercury et avec sa voix envoûtante, il avait enchanté la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques à Paris cet été. Lucky Love vient de sortir son premier album. Il est notre invité dans 20 minutes. Météo assez beau, jusqu'à 6 degrés en plaine et très doux en montagne. On est ensemble pendant une demi-heure. Bienvenue! C'est un nouveau rebondissement dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les services secrets ukrainiens revendiquent la mort d'Igor Kirillov. Ce haut responsable de l'armée russe a été tué ce matin à Moscou dans l'explosion d'un véhicule piégé. Son adjoint a aussi été tué. Bonjour Stéphane Suran.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Kiev. Stéphane, à ce stade, que sait-on sur cet assassinat et quelles sont les premières réactions à Kiev ?
Alors, ce que l'on sait, grâce à des sources aussi bien russes qu'ukrainiennes, c'est que le lieutenant-général Igor Kirillov a été tué ce matin aux alentours de 6 heures à l'entrée d'un immeuble situé sur une avenue de Moscou. Des photos probablement issues de caméras de surveillance montrent deux corps gisant dans la neige sur le trottoir, celui du général Kirillov et celui de son assistant en treillis militaire. Selon des sources sécuritaires ukrainiennes, un dispositif explosif de 300 grammes aurait été arrimé au guidon d'une trottinette garée à l'entrée du bâtiment où devaient entrer les deux militaires. Il faut comprendre que le lieutenant général Kirillov, ce n'est pas n'importe qui dans l'armée russe, c'est tout simplement le commandant en chef des forces chargées de la guerre chimique. Il était dans le collimateur du SBU, les services de renseignement ukrainiens, alors que les autorités de Kiev accusent les forces armées russes de 4800 cas d'utilisation d'armes chimiques depuis le début de la guerre d'agression russe en 2022, et ce, sous les ordres du général Kirillov. En effet, plusieurs cas ont été documentés d'utilisation de grenades asphyxiantes par les forces russes qui ont entraîné l'hospitalisation de 2000 soldats. C'est donc un coup très fort porté par les Ukrainiens à Moscou même.
Et Stéphane, est-ce que c'est la première fois que les Ukrainiens se livrent à une action aussi spectaculaire ?
Non, c'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs dizaines de cas de soldats de différents rangs qui ont été tués par les forces ukrainiennes, notamment dans les territoires occupés de Donetsk, de Lugansk ou de Crimée, comme en novembre dernier, où un officier de la flotte russe de la mer Noire a été liquidé dans un attentat à la voiture piégée. Mais c'est sans doute l'attentat le plus spectaculaire parce qu'il se déroule directement dans le centre de Moscou, la capitale russe. Et puis, il s'agit tout simplement de l'officiel de plus haut au rang de l'armée russe qui a été liquidée par les Ukrainiens avec une revendication très forte qui est officialisée ce matin de la part des autorités ukrainiennes. Cela veut dire que Kiev veut porter le couteau, je dirais, sur le terrain russe, pas seulement sur le champ de bataille, infliger des coups alors que l'armée ukrainienne connaît des difficultés actuellement sur la ligne de front. Et c'est également une façon pour les Ukrainiens de se projeter à l'extérieur. On sait qu'ils ont déjà mené des opérations en Afrique, peut-être même en Syrie, et désormais directement à l'intérieur du territoire russe.
Stéphane Suran, en direct de Kiev. L'ONG de défense des océans Sea Shepherd France vient de l'annoncer sur les réseaux sociaux. Le défenseur des baleines Paul Watson a été libéré. Le gouvernement danois refuse d'extrader vers le Japon le militant écologiste incarcéré depuis cet été au Groenland. Paul Watson va pouvoir rentrer en France où il habite avec sa femme et ses deux enfants. Le Hezbollah sera interdit en Suisse. C'est la décision prise ce matin par le Conseil national. Quelques jours après le Hamas, c'est maintenant le mouvement armé chiite libanais qui est visé. Phileas Sautier, vous avez suivi les débats ce matin à Berne. Qu'est-ce qui motive le Parlement à interdire le Hezbollah ?
Cette interdiction envoie un signal et offre plus d'outils pour prévenir les activités du Hezbollah sur notre territoire. C'est ce qu'ont argumenté, en tout cas, les défenseurs de ce texte ce matin à Berne. À terme, cela devrait permettre des mesures préventives plus faciles, par exemple les interdictions d'entrée ou les expulsions du territoire. Malgré ça, sur le plan diplomatique, cette décision suscite des craintes chez Nicolas Valder, conseiller national vert Genevois, tout à l'heure à la tribune.
Pour toute discussion politique au Liban, encore aujourd'hui, eh bien, il faut discuter avec le Hezbollah. Comment, dans ces conditions, imaginez-vous que la Suisse puisse participer à soit l'extension du cessez-le-feu, soit aux prochaines négociations et discussions de paix entre Israël et le Liban, si nous nous bloquons la porte de discussion avec l'un des acteurs incontournables de la politique libanaise.
Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, selon Jacqueline de Quattro, conseillère nationale PLR vaudoise.
Les bons offices et l'aide humanitaire sont préservés par notre législation, y compris en cas d'interdiction du Hezbollah. L'interdiction du Hezbollah permet aux autorités judiciaires d'intervenir plus rapidement et plus efficacement parce qu'on n'a pas besoin de démontrer à chaque fois dans le cas particulier qu'il s'agit bel et bien d'une affiliation au Hezbollah. Et c'est notamment très important pour tout ce qui est du financement d'activités terroristes.
Une argumentation qui a convaincu, le texte a été accepté à une large majorité. La semaine dernière, l'autre chambre du Parlement, le Conseil des États, a pris la même décision. Le gouvernement devrait donc rédiger un projet de loi.
Vos précisions, Phileas Autier. La neige, la glace, les températures très froides, des symboles de l'hiver qui ont tendance à disparaître. Une étude publiée ce matin par l'Institut de recherche américain Climate Central montre que les hivers sont plus chauds à cause des activités humaines. Quelles sont les conséquences de ce redout ? On en parle avec vous, Martine Rebeuté. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue à l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage et professeur à l'Université de Neuchâtel. Alors l'Europe perd une semaine de gel par an à cause du réchauffement climatique, c'est ce que dit cette étude. Et c'est même 10 jours de moins pour la Suisse. Comment on l'explique ?
Bon, avec l'augmentation générale des températures, on a des extrêmes qui se présentent de plus en plus fréquemment en été, et puis on perd évidemment des jours froids en hiver. Si on regarde depuis les années 60, un peu à toutes les altitudes en Suisse, on a perdu une quarantaine, voire 50 jours de gel en une soixantaine d'années, c'est-à-dire de jours où les températures descendent au moins un tout petit moment en dessous de 0 degré. Mais vous avez aussi une forte perte de ce qu'on appelle les jours d'hiver, où la température reste de moins en moins souvent toute la journée en dessous de 0, et ça même à haute altitude.
Plus chaud, moins de neige, ça touche évidemment le tourisme hivernal, les stations de montagne, mais moins de neige, c'est aussi moins d'eau, moins de glaciers. Quel impact ça a, ça ?
Alors c'est surtout sur la saisonnalité de la disponibilité en eau, puisqu'auparavant on avait davantage d'eau qui était conservée sous forme solide, soit sous forme de neige, soit sous forme de glace. Et aujourd'hui, on a une plus grande quantité d'eau qui va rejoindre immédiatement la plaine et les rivières. Et puis vous avez moins de stock qui va entrer progressivement dans les terrains et qui va être disponible jusqu'en été.
Est-ce qu'on peut craindre des inondations, par exemple ?
Oui, alors ça, clairement, parce que c'est un impact supplémentaire, en plus du fait que les précipitations s'intensifient, que vous avez des phénomènes avec une intensité qu'on ne connaissait pas auparavant.
Et Martine Rebeuté, cette étude souligne aussi les conséquences sur la santé, parce que le froid, ça permet de réguler les populations d'insectes qui sont porteurs de maladies comme les moustiques et les tiques, et les hivers plus courts favorisent la dissémination du pollen et donc les allergies. Ça, c'est quelque chose qui vous inquiète ?
C'est que la réduction du froid, ça a des impacts énormes sur l'ensemble des écosystèmes, qu'ils soient cultivés ou naturels. Ça a des impacts sur la qualité de l'eau des lacs, de l'ensemble de l'écosystème lacustre, sur les forêts et sur l'agriculture. Si on parle même seulement d'arboriculture, certains arbres ont besoin d'une certaine quantité de froid pour opérer leur cycle, et il viendra un moment où on ne pourra plus cultiver certains fruitiers, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on étudie, mais on a aussi effectivement tous les insectes potentiellement pathogènes, soit directement pour pour la santé humaine ou indirectement par l'effet sur l'agriculture ou sur les écosystèmes. Ça, c'est des choses qui changent aussi avec la réduction du froid. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce processus est en forte accélération. Donc, tout ce qu'on prévoyait encore il y a quelques années, tous les scénarios sont dépassés, malheureusement.
Martine Robotet, climatologue à l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage et professeure à l'Université de Neuchâtel. Merci d'avoir été quelques minutes avec nous dans ce 12-30. Belle journée.
Merci à vous aussi.
L'Union européenne veut concurrencer Starlink, le fournisseur d'accès à Internet par satellite de la société SpaceX détenue par Elon Musk. L'Union européenne met donc en chantier Iris 2, c'est le petit nom d'une nouvelle constellation de satellites. La Commission, l'Agence spatiale européenne et les industriels ont signé plusieurs contrats hier à Bruxelles. Avec quels objectifs ? Élément de réponse avec Pierre Benazet.
Iris 2 va avoir deux rôles essentiels avec l'objectif de sécuriser les communications européennes. D'une part, le volet civil, où l'Europe promet une large bande passante pour des télécommunications mobiles et de l'Internet haut débit. Et c'est là, effectivement, qu'Iris 2 va concurrencer Starlink et aussi les autres constellations commerciales en préparation. Il y a d'autre part le programme de souveraineté, c'est-à-dire des applications gouvernementales, par exemple des connexions sécurisées pour l'usage militaire, la surveillance des frontières, la gestion de crise et la protection d'infrastructures clés, comme avec la sécurisation des communications des ambassades. Le commissaire européen Andrius Kubilius, chargé de la défense et de l'espace, souligne l'urgence d'Iris 2.
Nous sommes menacés. Nos communications de connectivité sont menacées. Les câbles Internet ont été coupés dans la Baltique. La Russie brouille nos signaux de navigation. La première chose que la Russie a attaquée, une heure avant l'invasion à grande échelle, était un satellite stationnaire exploité depuis l'Europe dans le cadre d'une cyberattaque très sophistiquée. Les paramilitaires russes font souffrir l'Afrique. Nous offrirons l'Internet à haut débit aux sociétés de soutien en envoyant ainsi un message vital de solidarité.
Les 27 ne prévoient pas de permettre à des industriels hors UE de participer. En revanche, ils se disent ouverts à la participation d'États voisins. La Norvège et l'Islande ont fait part de leur intérêt et la Suisse serait elle aussi éligible pour participer au programme dit de souveraineté. Pierre Benazet, RTS, à Bruxelles.
L'archipel français de Mayotte compte ses morts et prend conscience de l'étendue des dégâts après le cyclone dévastateur de ce week-end. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé hier soir le déploiement de moyens exceptionnels pour venir en aide aux populations de ce département français d'outre-mer. Des populations issues en très grand nombre de l'immigration illégale. Dresser le bilan des victimes est donc très compliqué. À Paris, Benjamin Louis.
Pour l'heure, le décompte officiel ne s'élève qu'à 22 personnes décédées, mais pour le ministre de l'Intérieur français, le constat est sans appel.
L'île est totalement dévastée. L'habitat, qui est un habitat précaire, les bangas, pour ceux qui ne connaissent pas, les bidonvilles, il n'y a plus rien. Pour ce qui concerne l'habitat moins précaire, en dur, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Ne me demandez pas de bilan, et je serais bien incapable de me projeter pour vous donner de quelconques chiffres pour l'instant.
La religion musulmane majoritaire parmi les populations touchées prescrivant l'inhumation dans les 24 heures, le ministre craint que de nombreux enterrements aient eu lieu sans qu'on puisse les comptabiliser. Ce que corrobore la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa.
Il y a eu un imam qui a expliqué avoir enterré plus d'une trentaine de personnes dans le bidonville de la Vigie, en petite terre. Donc je ne sais même pas si ça s'est rentré dans le bilan officiel. Le bilan réel des personnes qui ont été emportées par la boue et les vents et les tôles dans les bidonvilles, on ne le saura jamais puisque par définition, c'est une population en situation irrégulière, c'est une population clandestine. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été la principale victime de ce drame, parce qu'en fait, elle a eu peur d'aller dans les abris. Elle a eu peur d'aller au-devant des autorités quand on avait appelé à aller dans les refuges. Et donc, je pense qu'on n'aura jamais le décompte exact.
Les autorités redoutent des centaines, voire des milliers de morts à mesure que les secouristes ratisseront les décombres. Benjamin Luis, RTS, Paris.
Et parlons maintenant de nos impôts. Une hausse d'impôts, c'est non merci à Bulle. Le législatif de la deuxième ville du canton de Fribourg a refusé hier soir une augmentation de près de 6 points du coefficient qui n'a plus bougé depuis 2007. Il a balayé une proposition qui venait de l'exécutif de la commune. Mais dit Piquant, pour la droite, il y a mieux à faire.
Ouais, pour le PLR, le centre et l'UDC, augmenter dès l'année prochaine le coefficient de 74,3 à 80%, c'est bien trop radical. Bulle a encore une belle marge de progression au niveau de la gestion de ses finances. Avant d'imposer le citoyen, la droite demande d'adopter une vraie politique d'austérité. Et c'est là justement qu'il y a désaccord profond avec l'exécutif de la ville de Bulle, pourtant lui aussi à majorité de droite. Il assure avoir coupé partout et qu'il n'y a plus de gras à enlever aujourd'hui. Il n'a pas réussi à convaincre, mais il a répété que le chef-lieu gruyérien ne pourra pas se permettre de conserver encore bien longtemps un coefficient d'impôt inférieur à 80%, soit plus bas que la grande majorité des communes fribourgeoises.
Et pourquoi cela, Mehdi ?
Eh bien, la faute à une démographie galopante, plus 19% entre 2016 et 2023. La population explose, les besoins en infrastructures également. Sauf que malgré son dynamisme économique et démographique, les recettes fiscales, elles, ne suivent plus du côté de Bulle. Le problème est structurel. Les nouveaux habitants qui arrivent dans la commune n'ont pas, je cite, une capacité contributive intéressante. La hausse d'impôts risque donc de revenir rapidement à l'agenda à Bulle, mais peut-être pas dès l'année prochaine où nous serons à 3 mois des élections communales.
Vos précisions, Mehdi Piquant. Et dans le canton du Jura, une lacune bientôt comblée. Le canton ouvre le mois prochain à Port-en-Truy un centre d'apprentissage et de perfectionnement à l'autonomie, un lieu de vie et de formation pour les personnes en situation de handicap avec un déficit intellectuel. Bonjour Gaël Klein.
Bonjour.
Et on attend beaucoup de cette nouvelle structure qui n'existe pas dans tous les cantons.
Ah oui, comme Laura, 34 ans, qui a passé quasi toute sa vie en institution, et Robin, 26 ans, qui voudrait pouvoir tout simplement habiter près de son lieu de travail.
C'est pour apprendre à vivre seul. J'aimerais bien avoir mon appartement, sans avoir des problèmes avec des voisinages, par exemple. Habiter près de mon lieu de travail, sans prendre le train tous les jours.
Depuis tout petit, je suis passé en institution sur institution et on est un peu marre parce que je suis adulte et puis je suis capable pour aller vivre tout seul dans mon propre appartement. Pouvoir inviter aussi 2-3 copines et puis passer les soirées ensemble.
Laura et Robin vont habiter durant 2 ans à Cap Autonomie. C'est le nom de cette structure installée dans une maison transformée en lieu de vie. 6 personnes vont suivre une formation déclinée en 7 domaines de compétences, avec par exemple la cuisine, le ménage, les finances ou encore l'hygiène et les loisirs.
Égal, tout cela doit les conduire à l'autonomie personnelle.
Oui, les résidents devront atteindre au moins 80% des objectifs dans ces différents domaines avant de ne plus devoir dépendre d'une institution. La ministre en charge de l'action sociale, Nathalie Bartolo.
Dans nos institutions, nous avons des personnes qui bénéficient de compétences, qui sont proches de l'autonomie, et cette structure leur permettra d'acquérir un certain nombre d'outils nécessaires pour pouvoir être plus ou moins autonome et pouvoir prendre son propre appartement, par exemple. Puis surtout, on leur permettra d'être partie prenante véritable de la société en faisant des choix, en décidant ce qu'elles veulent manger, ce qu'elles veulent faire comme loisir, et pas de tout le temps les accompagner dans tous les aspects de la vie.
Et jusqu'à présent, il fallait pour les personnes du Jura se rendre à Fribourg pour pouvoir bénéficier d'une telle structure visant à l'autonomie. Cap Autonomie répond ainsi à un réel besoin. Son financement est assuré par les rentes et les autres revenus des bénéficiaires.
Gaël Klein en direct de Delémont. Et en football, on l'apprend à l'instant, Alessandro Mangiarati n'est plus l'entraîneur d'Yverdon Sport. Les dirigeants du club viennent de le faire savoir après 8 matchs de Super League sans victoire. Le nouveau coach sera annoncé prochainement. Vous le savez sans doute, on parle encore de football. L'Euro féminin 2025 se déroule en Suisse l'été prochain. On connaît depuis hier soir le tableau. Le tirage au sort a été plutôt clément avec les Suissesses qui affronteront la Norvège, l'Islande et la Finlande. Jérôme Jeannin, à 200 jours de l'événement, la Suisse prend la mesure de l'événement.
Il y a 20 mois que la Suisse prépare 7 euros, mais ce tirage au sort le rend soudain plus concret. Les 16 équipes connaissent désormais leur adversaire et peuvent peaufiner leur préparation dans un pays où l'intérêt ne cesse d'augmenter. Le président de l'Association Suisse de Football, Dominique Blanc.
On a vu comment ça s'est passé lors de la vente des billets. Dans les 2 vagues qu'on a mis dans le marché, on les a vendues tout de suite. Ça va être la même chose quand on va mettre des billets en vente dès demain pour une nouvelle vague. Les prochaines étapes, c'est surtout maintenant qu'on sait où vont se dérouler les matchs, avec quelle équipe, etc. C'est que les équipes puissent choisir leur camp d'entraînement. On a aussi rencontré les villes hôtes et on a beaucoup de manifestations à mettre en place avec elles.
Demain, c'est donc aujourd'hui, vu que cette interview a été réalisée hier soir. Et comme vous l'avez entendu, des billets supplémentaires sont mis en vente depuis ce matin sur les sites womenseuro.com et ticketcorner.ch. Cet euro, il promet de changer pas mal de choses. C'est la certitude de Lara Dickenmann, la meilleure meilleure footballeuse de l'histoire en Suisse, aujourd'hui retraitée, qui a pris part au tirage au sort hier soir.
Ça va faire beaucoup de positif pour le foot en général en Suisse, mais aussi pour les femmes en Suisse, pour les femmes dans le sport. On ne se rend même pas compte à quel point ce tournoi il est grand et il va changer les choses. Mais j'ai tellement hâte de voir le tournoi d'abord, l'atmosphère dans les stades, la Suisse jouer. Après, j'ai aussi hâte de voir ce que le tournoi il a fait pour le foot féminin suisse.
À vérifier dès le 2 juillet, date du match d'ouverture entre la Suisse et la Norvège.
Et oui, on verra bien. Merci Jérôme Jeannin.
Le 12-30, Pauline Rappa.
Et on termine ce 12-30 en musique. Le morceau I'm Ready de Lucky Love, c'est le single du tout premier album du musicien français I Don't Care If It Burns qui vient de sortir. Et en prévision de cet album, j'avais rencontré Lucky Love dans sa loge au Paléo Festival l'été dernier. Bonjour Lucky Love.
Bonjour.
Alors pourquoi ce nom, Lucky Love ?
Pourquoi ce nom ? Eh bien, je me suis mariée un peu plus jeune à Copenhague. Et là-bas, pour les couples de même sexe, on peut choisir un nom commun qui est un nouveau nom. Et on avait décidé avec mon ex-mari de s'appeler Love. Et Lucky, c'est juste parce que je m'appelle Luc et que quand j'étais petit, j'étais fan de la chanson Lucky de Britney Spears. Alors ça a donné Lucky Love et puis j'aimais bien l'idée d'être chanceux d'avoir connu l'amour, quoi.
Vous avez sorti un premier EP en 2023 avec 6 titres et vous sortez votre premier album ce mois de novembre. Le premier single de cet album s'appelle I Am Ready. Vous êtes prêt pour quoi ?
Je suis prêt pour l'amour. I'm Ready, c'est une chanson qui est très importante pour moi parce que je pense qu'en tant qu'artiste, on se doit d'être un témoin de notre époque. Et on vit dans un monde qui est très difficile et du coup, c'est un appel à la paix. Et je pense qu'on a longtemps essayé la haine, on a longtemps essayé de s'entretuer. Bon, visiblement, ça ne marche pas, essayons autrement.
Vous parlez d'amour et de paix, Lucky Love. Alors pour vous, je crois que ça n'a pas toujours été facile, notamment à l'école. Donc vous êtes né sans bras gauche et puis vous êtes homosexuel. C'est toujours compliqué d'être homosexuel, même à notre époque. Est-ce que vous êtes un artiste engagé dans le sens que vous voulez offrir plus de diversité aussi dans les représentations, plus de modèles ?
Je pense pas être un artiste engagé. Je pense juste être un artiste, et puisque je suis un artiste, ça amène de l'engagement, juste parce que je représente tout ça, mais par contre, c'est pas mon but. Moi, je m'exprime en tant qu'être humain, voilà.
Vous êtes jeune, vous avez 31 ans, si je calcule bien. 30, oula, pardon. Et voilà, 30 ans, c'est très jeune, vous avez déjà eu plusieurs métiers. Performeur chez Madame Arthur, donc ce cabaret drag à Paris. Vous avez été mannequin, comédien, danseur aussi pour la chorégraphe Caroline Carlson. Vous êtes poète. Pourquoi la musique finalement à 30 ans ou presque ?
Bien, moi j'ai tout fait un peu par rencontre. J'ai rencontré des gens dans la vie. Ça a été la première Caroline Carlson quand j'étais enfant. Et elle m'a offert de donner un sens à mon corps que je ne comprenais pas et de pouvoir le mettre au service de quelque chose. Et du coup, j'ai été éduqué comme ça. Et donc, j'ai toujours voulu être au service d'une écriture, quelle qu'elle soit chorégraphique ou qu'elle soit théâtrale ou... Ou même, je pense qu'être mannequin, surtout moi, quand je suis arrivé dans le milieu de la mode, il n'y avait pas encore toute cette diversité, tout ça. Donc, c'était réellement essayer ouais, de devenir l'objet de désir. Parce qu'il est toujours question de désir entre un chorégraphe et son danseur ou entre un metteur en scène et son acteur. Et ça a été, je pense, une expérience qui m'a amené à une autre, puis une autre, puis une autre rencontre. Béatrice Dalle qui m'a amené au théâtre et Marie-Agnès Gillot qui m'a ramené à l'Opéra de Paris. Moi, j'obéis à mon cœur et à ce qu'il me demande. Et du coup, j'essaie pas d'atteindre une certaine légitimité dans un milieu avant de peut-être me transformer ou je sais pas faire autrement que de m'exprimer. Et la musique, ce qui est génial, c'est que c'est un art complet. C'est-à-dire que c'est la première fois que je me trouve face à un médium qui me permet d'utiliser tout ce que j'ai appris et surtout qui m'offre de non plus être au service d'une écriture, mais d'enfin servir la mienne. What about my masculinity? What the fuck is wrong with my body? Am I not enough?
Est-ce que c'est compliqué de sortir un nouveau single? On parlait de I'm Ready après votre titre Masculinity qui a quand même eu un succès phénoménal, qui était premier dans des pays improbables, en Pologne, en Ukraine, en Iran.
Oui, c'est un peu vertigineux, surtout que moi, c'est mon premier objet musical, Tendresse. Et du coup, j'avais aucune attente, tout ça. Et puis finalement, effectivement, dès qu'une chanson comme ça traverse le monde et touche autant de personnes, on a envie de toucher encore et encore. On a envie de partager parce que c'est un moment de partage pur, quoi, où vraiment ils chantent mes mots. Quand on se retrouve face à 3000 ou 5000 personnes qui chantent nos mots, c'est un moment incroyable, alors on a envie de réitérer, ouais.
Lucky Love, vous êtes français, vous êtes né à Roubaix il y a 30 ans, vous chantez en anglais et en français. Comment est-ce que vous choisissez la langue pour quelle chanson ?
Et bien sur l'EP, j'avais cette envie vraiment de ne pas cloisonner ma musique. Moi, j'adore la pop. J'adore la grande pop et c'est pour ça que j'ai choisi l'anglais. C'est parce que mes icônes, c'est des icônes comme je sais pas, Michael Jackson. J'adore cette universalité qu'offre l'anglais. Mais je voulais quand même y amener un peu de ma poésie française. Et j'écris pas la même manière en anglais et en français puisque l'anglais me permet la syntaxe. Alors que le français, je dirais, me permet la coquetterie, quoi. Après là, sur l'album, puisqu'il est question de l'album, il n'y a plus de français.
Mais on parlait de langue, c'est vrai que quand une personne parle dans une langue différente, on a l'impression d'entendre quelqu'un d'autre. Mmh. Et c'est vrai que vous, quand vous chantez en français, quand on entend Tendresse par exemple, on sent un peu toute la lignée des grands chanteurs, des grandes chanteuses de la chanson francophone. Et en anglais, moi j'ai le sentiment qu'il y a un peu plus de liberté ou de folie. Est-ce que c'est un peu ça ?
Ouais, c'est un peu ça, parce que je pense que j'ai appréhendé la musique française avec le cabaret, et que du coup, forcément, c'est un format qui nous amène à des classiques, et puis en plus mes origines, j'ai grandi avec Jacques Brel, donc forcément, mes airs sont des airs du Nord, et donc on peut y trouver des similitudes, et c'est aussi pour ça que d'ailleurs j'ai choisi l'anglais, c'est parce que moi, je fais rien avec le passé. Le passé, je le laisse derrière moi, je regarde devant, quoi, et du coup, j'avais envie d'avenir, voilà.
Donc ce premier album est tout en anglais, vous venez de le dire. Il parle de quoi, ce premier album ? Qu'est-ce que vous vouliez raconter ?
Ce premier album, il parle de... Pour moi, c'est un peu... Bon, mon livre préféré s'appelle « Fragments d'un discours amoureux » de Roland Barthes. Et je voulais créer un album qui puisse offrir la même reconnaissance. C'est-à-dire que quand j'ai lu pour la première fois Roland Barthes, je me suis rendu compte que c'était la première fois que je me sentais plus seul dans mon sentiment amoureux. Quelqu'un avait mis des mots sur ma solitude ou sur mon attente, sur mes peurs ou sur ma joie. Et je rêvais de pouvoir créer un objet qui soit comme ça. Et je trouve qu'en plus, ça force à une sincérité. Voilà, l'album, il parle que d'amour parce que je suis fait que de ça. Je pense qu'à travers l'amour, on peut parler de tout. Voilà.
Donc c'est un album qui console ?
C'est un album qui console, je pense. C'est un album qui console, c'est un album qui aussi offre de nouvelles perspectives, je pense. C'est un album aussi qu'on peut écouter autant le matin en se réveillant. Il y a certaines chansons qui sont faites pour ça, pour que tu puisses passer une super journée. Et puis, il y en a d'autres qui s'écoutent le soir, tard dans la nuit. Ouais.
Est-ce que vous seriez d'accord, Lucky Love, de me chanter un petit quelque chose ?
Qu'est-ce que vous voulez ?
Bah, c'est votre choix.
Oh, c'est dur, ça. Alors, I Don't Care If It Burns, ça fait un truc comme... I gave my life, I've been working hard, waiting for the days you'll be mine, so let me know.
La chanson I Don't Care If It Burns, chantée rien que pour nous par le musicien français Lucky Love, c'est aussi le nom de son tout premier album qui vient de paraître. Après les grisailles matinales, le temps est bien ensoleillé cet après-midi, malgré des passages nuageux d'altitude. Il fait jusqu'à 6 degrés en plaine et très doux en montagne, 7 degrés à 2000 mètres. Demain mercredi, bande brouillard possible le matin sur le plateau avec un sommet vers 600 mètres. Sinon, temps assez ensoleillé avec toujours de nombreux passages nuageux. Température en plaine, moins 1 degré au petit matin et jusqu'à 8 l'après-midi, avec un peu de vent sur le plateau, 6 degrés à 2000 mètres. Jeudi s'annonce gris, les précipitations vont s'étendre à toutes les régions le matin depuis l'ouest.
La vie à peu près. Florence Grivel.
La vie à peu près avec cette semaine, le saxophoniste genevois qui rayonne bien au-delà des frontières nationales, Nicolas Masson. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, soyez les bienvenus. Quelques lignes sur sa fiche Wikipédia. Après avoir pris le Transsibérien à l'âge de 19 ans pour un périple de 6 mois en Asie, Nicolas Masson termine son voyage à New York où il rencontre Cecil Taylor, Fred Hopkins, Frank Lowe et Makanda McIntyre. Il y étudie durant 4 mois et de retour à Genève, il obtient en 2000 son diplôme professionnel d'enseignement et de performance jazz au Conservatoire populaire de Genève. Sous ces quelques lignes très factuelles se dégage un apprentissage du monde profond et vibrant, le mouvement, le souffle, les paysages et la musique ancrés au cœur de ces voyages initiatiques. Pour Nicolas Masson, tout était ouvert et possible, avec une envie de s'inventer une vie. Très inspiré aussi par sa famille de voyageurs, avec des grands-parents partis au Maroc, emmenant leur famille. Et puis aussi par la découverte, grâce à un ami saxophoniste botaniste qui lui offre l'usage du monde, ce grand déclic pour l'Asie. Est-Ouest, le Transsibérien et le rêve américain, ainsi se nomme ce deuxième épisode que nous propose Anya Léveillé.
Bonjour Nicolas Masson.
Bonjour.
Nous nous sommes quittés hier sur vos premières expériences comme tout jeune saxophoniste débutant dans les ateliers de jazz à l'AMR, qui s'appelait l'Association pour les musiques de recherche. On se demande toujours pourquoi ce R dans AMR. Et, c'est vrai que, voilà,
il est là
la
pour
recherche
ça.
Recherche au cœur du projet. Donc les premiers ateliers avec Olivier Magnonat, qui était l'un de vos profs. Mm-hmm. Et est-ce qu'à un moment donné, vous prenez quand même des cours de saxophone ou vous continuez à apprendre seul ou en jouant avec des gens?
Non, j'ai pris quelques cours. Je me rappelle avoir pris peut-être un cours ou deux avec Maurizio Bionda. Après, en fait, c'est très bizarre. J'ai comme un flou sur toute cette période. Comment j'ai vraiment... Je me rappelle bien de la suite, mais c'est tout début. Je pense que je prenais ponctuellement des petits cours par-ci, par-là, tout en continuant de mon côté. Mais j'avais cette phase très boulimique aussi, où je jouais beaucoup, j'analysais... beaucoup les choses, j'analysais des solos, je faisais des c'est marrant, j'ai retrouvé des vieilles parties, je faisais des statistiques dans les solos, combien de fois il joue la neuvième dans ses phrases par rapport à l'accord, et c'est de comprendre le langage improvisé.
Donc et la théorie, vous l'avez apprise aussi finalement à l'oreille, en analysant, en décortiquant.
Moi, je pense que je me suis procuré des livres assez vite. Je me rappelle avoir acheté des livres issus de ces collections qui s'appellent Jamie Ebersold, en fait, qui sont des livres avec des CD, en fait, sur lesquels sont enregistrés des accompagnements, enregistrés par des vrais musiciens. À l'époque, on faisait pas ça avec des logiciels. Et puis, l'idée, c'était de pouvoir s'entraîner avec une section rythmique. Alors, j'avais acheté un volume pour apprendre à jouer les 2/5 dans les 12 tons. Et puis, donc, je faisais mes exercices, j'apprenais mes gammes. Et voilà, j'y allais un petit peu à tâtons, comme ça, au début.
Avec des minus one, avec des
exactement.
Cassette, je pense, à la fin des années 80.
Vinyle.
Vinyle, même.
Bon, mes deux premiers, c'était vinyle, ouais. Ouais.
Et donc, est-ce que vous êtes... vous jouez avec des gens, je ne sais pas si vous êtes au collège à ce moment-là, quand vous êtes adolescent
non,
à Genève,
non,
enfin, post-adolescent.
Non, je n'ai pas fait le collège, donc ce n'était pas au collège, non. Non, les gens qui jouaient, c'était essentiellement à l'AMR, en fait. Et puis, je crois assez rapidement, on a joué... aussi en parallèle aux ateliers que les gens que je rencontrais dans les ateliers, on a fait des groupes en dehors, mais pas au début, pas tellement avec des ambitions de concert, surtout pour se voir ensemble et jouer peut-être un répertoire qui nous intéressait qu'on faisait pas avec l'atelier. Et puis voilà, je me rappelle aussi avoir j'avais des amis qui étaient dans le film d'animation ou dans le cinéma, qui avaient besoin de musique. Et puis, je me rappelle avoir composé une pièce avec le pianiste de mon atelier de l'époque. Et on s'était vu pour enregistrer ça. Donc, voilà, c'était vraiment très centré autour de l'AMR.
Mais à la fin de l'adolescence, vous avez pas encore, vous dites pas encore « je veux être musicien ». C'est pas encore très clair.
C'est pas très, très clair. Non, je pense que j'avais pas mal d'intérêts variés. À partir du moment où j'ai découvert le saxophone, le jazz, la musique improvisée, c'est devenu assez central dans ma vie. Et puis je pense que je rêvais peut-être, je fantasmais de de pouvoir être musicien un jour, peut-être, mais c'était pas si clair en fait. C'est aussi l'époque où j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la photo. C'est une époque où je me suis intéressé beaucoup au voyage et puis à la littérature de voyage, en particulier Nicolas Bouvier. Donc voilà, j'avais toutes ces choses qui me tournaient en tête. Je m'intéressais beaucoup aux cultures extra-européennes. J'avais envie d'être ethnologue, je sais pas, c'était, voilà, j'étais ado, quoi.
Tout était ouvert et possible.
Oui, oui, oui.
C'était plus facile aussi, peut-être, d'imaginer plein de cheminements professionnels encore à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui.
Peut-être, peut-être. Oui, oui, c'est possible. C'était aussi une période où j'avais besoin aussi de m'inventer une vie avec d'autres possibilités, avec des choses qui... Je me sentais un peu enfermé dans ma vie, dans cette période d'adolescent où j'étais pas du tout à la place que je voulais occuper. Et voilà, donc j'avais effectivement cette boulimie où je lisais beaucoup, j'écoutais tout ce que je pouvais, j'avais envie de beaucoup de choses et de pouvoir m'inventer une vie.
Et puis on parlait hier justement de cet horizon américain, comme ça, qui vous faisait rêver, de cet imaginaire américain, arrive le jazz. Et finalement, New York, vous allez y arriver, mais en faisant d'abord un petit détour par l'Orient, par l'Asie. Mm-hmm. À 19 ans, Nicolas Masson,
oui, oui.
Vous vous dites là, ça y est, il faut que je fasse mon premier voyage, enfin... Et j'explore finalement tous les possibles en écrivant, en photographiant. Je ne sais pas si vous avez embarqué un instrument avec vous aussi, mais vous êtes parti en fait en transsibérien en prenant le train à Moscou jusqu'en Chine, voire plus loin encore.
Oui, et plus loin. En fait, ma famille est vraiment une famille de voyageurs. Mes grands-parents ont émigré au Maroc juste après la guerre.
Ils sont partis de Genève.
Ils sont partis de Genève, oui. Donc, ils ont vécu au Maroc pendant 18 ans, je crois. Ils ont embarqué mon père qui était juste bébé. Puis après, ils ont eu encore 4 enfants qui sont nés au Maroc. Et donc, il y a toujours eu dans ma famille cet ailleurs. Ben là, en l'occurrence, c'est toute cette culture du Maroc qui était très présente en fait dans toutes les fêtes de famille où mes tantes parlaient arabe entre elles, où on avait ces grands repas, on mangeait des tagines, du couscous, la pastilla, tous ces trucs. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné depuis petit. Et puis j'avais un oncle et une tante qui ont beaucoup voyagé, un oncle qui a voyagé pendant des années, qui a vraiment fait la route dans les années 70, qui revenait malade parce qu'il avait vendu son sang en Inde pour se faire des sous, et puis il revenait avec une hépatite. Ou non, même il avait été rapatrié, je crois, depuis je ne sais pas où, le Japon.
Et puis, l'époque des hippies.
Voilà, vraiment. Et puis une autre tante qui était allée rejoindre sa cousine qui vivait au Pakistan à l'époque, et puis elles sont revenues en voiture depuis le Pakistan, avec le copain de sa cousine qui, en fait, avait en douce planqué de la drogue dans le réservoir de la voiture. Enfin, ils étaient toutes sortes d'aventures comme ça qui m'avaient fait rêver depuis enfant. Donc, très tôt, j'ai eu envie de voyage, effectivement. Puis aussi mes parents qui avaient vécu à l'étranger. Voilà, c'était clair pour moi que dès que possible, dès que je serais libre, j'allais partir en voyage.
Et pourquoi l'Asie, donc ? Parce que vous auriez pu partir sur le continent africain ou latino-américain ?
Effectivement, j'étais d'abord parti pour un projet en Amérique du Sud parce que un de mes oncles qui vit en Égypte maintenant depuis très longtemps avait beaucoup voyagé en Amérique du Sud. Et puis chez mes grands-parents, je lisais ses carnets de voyage et j'adorais lire ses carnets qui étaient vraiment incroyables et toutes sortes d'aventures, y compris des pages complètement délirantes où il avait pris des champignons ou je sais pas quel. Enfin, je sais pas, j'aimais lire ces carnets de voyage, ça me faisait vraiment rêver. Et donc, il avait beaucoup voyagé en Amérique du Sud, donc j'étais parti sur cette idée-là. Et puis, par hasard, dans la rue, j'ai recroisé quelqu'un qui avait été à l'école primaire avec moi, et je l'avais pas vu depuis l'école primaire, et puis je peux en discuter comme ça, puis il me dit « qu'est-ce que tu fais ?» Puis je lui dis « j'aimerais partir en voyage l'année prochaine, j'aimerais aller en Amérique du Sud. » Puis il me dit « ah tiens, en parlant de voyage, j'ai vu qu'ils avaient ouvert la Mongolie, maintenant on pouvait avoir des visas. » Et puis je dis « ah bon, tiens. » Et puis ça m'a un peu interpellé comme ça, je me dis « tiens, la Mongolie, ok. » Et puis c'est là qu'on vient avec les ateliers de l'AMR de nouveau. Dans mon atelier, il y avait un autre saxophoniste qui est botaniste et qui m'a offert L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Et j'étais passionné par ce livre. Et ça, c'est marrant d'en parler, ça me fait des émotions comme ça. Et voilà, de lire ce livre, ça m'a donné envie de partir en Asie avec en plus cette histoire de Mongolie. Donc j'ai fait ça. Je suis allé chercher mon visa pour la Mongolie. J'ai acheté mon billet de train pour le Transsibérien à l'agence Cosmos à la rue de Lausanne. Et je suis parti pour Moscou en passant par Varsovie. Et...
Mais donc, c'est en 91, tous les
pays. En 91, ouais, 19 ans.
Un visa pour l'Union soviétique, parce que c'est juste la fin de l'Union soviétique.
Ils étaient déjà sortis, en fait. C'était,
Ils venaient de sortir, donc...
Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc je suis allé chercher mon visa pour la Mongolie à Genève et pour la Chine, je pense que c'était à Berne à l'époque.
Et cette expérience en transsibérien, donc une petite semaine dans le train, je ne sais pas si vous êtes sorti en chemin.
Oui, je suis sorti en Mongolie, justement.
Vous n'êtes pas sorti dans les
j'ai un peu regretté de ne pas sortir à Irkoutsk, au bord du lac Baïkal, parce que c'est vraiment magnifique, cette région. Mais j'avais pas prévu ça dans mon voyage, mais je me suis arrêté à Varsovie, par contre, en route pour aller prendre le transsibérien. Mais après peu de temps, c'était peut-être 48 heures maximum. Et c'est quelque chose dont je continue de parler en fait très souvent. C'est un voyage merveilleux. Pour moi, ça représentait plein de choses. C'était aussi enfin être libre. Pour moi, je quittais la Suisse et j'allais plus jamais y revenir. Je mettrais plus jamais les pieds en Suisse. donc je partais avec ces idées-là et dans ma tête, j'allais devenir Nicolas Bouvier et John Coltrane en même temps, plus éventuellement, je ne sais pas quel ethnologue ou photographe, effectivement, Raymond Depardon, je ne sais pas qui, avec toutes mes illusions et mon enthousiasme d'adolescent. Alors, j'en suis bien revenu après quelques mois de toutes ces illusions, voyant bien que j'avais pas tous ces talents. Mais voilà, j'ai fait ce voyage qui était quelque chose de vraiment incroyable, à une époque aussi où on avait encore un peu l'impression d'arriver dans un autre monde.
À Oulan-Bator, début des années 90, je pense que c'était vraiment un autre monde.
Ah oui, c'était vraiment incroyable. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à peine je suis sorti du train, il y a un homme qui est venu comme ça avec un vélo jaune flamboyant comme ça et puis une sorte de grand chapeau. Puis il est venu vers moi directement, puis il parlait un peu anglais, puis il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Puis je dis je viens visiter le pays, j'arrive tout juste par le train. Puis il me dit « Viens, tu peux venir habiter chez moi. J'ai de la place à la maison, viens chez moi. » Puis moi je venais d'arriver, je me suis dit « Non, je cherche un hôtel, je veux pas... » Puis il m'a dit, ça sert à rien, l'hôtel, tu vas pas trouver, tu vas dépenser tous tes sous, c'est beaucoup trop cher. Et puis moi, j'insistais, non, j'aimerais aller à l'hôtel. Puis il m'a dit, OK, je t'emmène, on va essayer de trouver un hôtel. Et on est allés ensemble, on a fait un tour d'Oulan-Bator comme ça. Et puis, effectivement, les hôtels, c'était vraiment n'importe quoi. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. Il y avait, dans le lobby des hôtels, il y avait une sorte de tas de sable. Je ne sais pas pourquoi, ils devaient faire des travaux. Puis après, on est allés dans un immeuble en périphérie. Il y a quelqu'un qui louait peut-être une chambre. Mais bon, c'était vraiment... Puis il me dit, viens chez moi quand même, on va boire le thé, on mange quelque chose, puis on en reparle. Et puis finalement, j'ai habité chez lui avec sa famille. Donc j'ai eu la chance de vraiment pouvoir vivre avec lui pendant une dizaine de jours.
Vous aviez un instrument avec vous ou pas? Vous aviez un saxophone?
Non, j'avais un appareil photo. Et je l'ai toujours ici, mais il avait une vieille pochette de cette marque Zenith, c'était un des appareils photo russes. Je l'ai toujours ici dans le tiroir. Et je me dis, tiens, quand même, ça va pas, t'as un appareil photo, t'as même pas de quoi le protéger.
Et vous parliez anglais?
Oui, parce que, en fait, lui, il avait fait des études, et puis là, il venait de finir son service militaire, et puis il avait pas encore d'emploi. Mais c'était quelqu'un d'éduqué, qui parlait anglais, qui a pu, en fait, me présenter à des gens qui avaient fait des études avec lui. Donc c'était super parce qu'il m'a présenté la directrice du conservatoire d'Oulan-Bator, une des conservatrices du musée historique de Mongolie. Donc j'ai eu droit à des visites privées de ces institutions et tout ça. Il m'a emmené à l'opéra aussi. Et puis après on est parti aussi dans la steppe rendre visite à des gens qu'il connaissait, qui vivaient dans des yourtes.
Avec des chevaux.
Voilà, exactement, ouais.
Oui, donc pour un jeune homme, là, j'imagine que votre imaginaire était comblé.
Oui, 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 c'était vraiment...
Cette envie de suivre les traces des écrivains, voyageurs, baroudeurs.
Oui, oui.
Et après la Mongolie, vous tracez vers la Chine.
Voilà, c'est ça, j'ai repris le train parce que... Justement, tu allais rendre visite à ces gens à la campagne, chez un couple très âgé. Et puis, c'était le mois d'octobre. Et il faisait très beau comme ça, il faisait froid, mais il avait fait vraiment très beau. Et puis l'homme a dit « Demain, c'est l'hiver ». Et puis, bon, okay. Et puis effectivement, on s'est relevé le lendemain matin, puis c'était tout blanc. Et on avait prévu d'aller dans le désert de Gobi et tout ça, mais avec l'hiver qui s'installait, c'était pas possible. Donc j'ai repris le train pour Pékin. Et après, je suis resté 2 mois en Chine et j'ai poursuivi mon voyage à travers la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie et puis Singapour.
Et que des bonnes expériences, donc plutôt...
Principalement
des bonnes expériences.
Principalement de bonnes expériences. J'ai trouvé le Vietnam... J'étais pas tellement préparé au Vietnam à cet âge-là. C'était assez dur, en fait. J'ai eu parmi les premiers visas qu'on pouvait obtenir sans tour organisé. Bon, c'était compliqué. Il fallait quand même déposer son passeport dans chaque village, etc. Mais j'étais pas tellement préparé, en fait, à la misère qu'il y avait sur place et aussi toutes les... En fait, on a l'impression que la guerre s'était terminée 2 ans auparavant. Il y avait beaucoup de gens estropiés, beaucoup d'enfants mal formés, probablement à cause de l'agent orange et toutes ces joyeusetés qu'ils ont répandues dans le pays. Donc c'était assez dur pour moi, mais quand même très intéressant. Donc globalement, c'était que de très belles expériences.
Et est-ce qu'en voyage, vous aviez des carnets de voyage? Vous faisiez des photos? Vous écriviez aussi? Vous les envoyez peut-être ensuite en Suisse, à Genève?
Oui, j'avais un carnet de voyage, effectivement, que je tenais quotidiennement. J'avais un journal un peu comme ça. Et puis j'écrivais un petit peu à ma petite amie de l'époque qui vivait à Sarcelles. Donc oui, puis je prenais des photos que j'ai retrouvées tout récemment, en fait. C'est drôle. Enfin, je savais que je les avais, mais je les ai pas regardées depuis longtemps. Et j'avais notamment des diapositives que j'avais jamais vraiment regardées, à part comme ça, vers la fenêtre. Et au bureau culturel, ici à Genève, ils ont un scanner de négatif. Maintenant, puis je me suis dit, je vais le faire. Donc c'était génial de revoir ces images. Et puis, ça ramenait plein de souvenirs. Et puis, aussi, je me suis dit que j'avais été un petit peu dur avec moi-même au niveau des photos aussi, parce que... Je trouvais que j'étais nul, que mes photos, ça allait pas du tout, etc. Puis en fait, là, en les revoyant, oui, c'est des photos d'un ado de 19 ans, mais tout jeune adulte. Mais il y a quelques belles images, je trouve, rétrospectivement.
C'est des photos de paysages, surtout des villes ou de portraits?
Non,
déjà.
Beaucoup des photos de scènes de rue. J'ai fait beaucoup de gens, beaucoup d'enfants.
Des humains,
oui.
Les humains, toujours, on y revient. Enfin, on racontait aussi hier que vous êtes passionné pour le jazz et surtout les parcours de tous ces humains qui produisaient la musique. Et là, de nouveau, en fait, voilà, les êtres humains sont au cœur de votre démarche artistique aussi, de jeunes photographes, de photographes débutants.
En effet.
Plus que les paysages ou les panoramas urbains.
C'était beaucoup ça, effectivement. J'ai commencé après à faire de la photo un peu plus sérieusement parce que j'avais ce magazine de skate qui s'appelait Trans World Skateboarding et ils étaient connus pour avoir des belles photos. Et c'est ça qui m'a donné envie, en fait, de faire du noir-blanc. Je me suis inscrit à un cours de développement labo à la maison de quartier de Tonnay pour apprendre ça. Et c'est là que j'ai commencé à faire de la photo sérieusement. Donc c'était la photo de skate au début, mais j'ai assez vite fait des portraits et puis des photos de concerts à l'AMR aussi. J'allais tous les week-ends et je faisais des photos de concerts à cette occasion.
Votre voyage dure combien de temps?
Un peu moins de 6 mois.
Vraiment, tout ça en 6 mois?
Ouais. En fait, je me suis rendu compte que d'être en route tout le temps, ça ne me convenait pas au bout d'un moment. Il y avait cette espèce de routine qui s'installait. On arrive dans un nouveau lieu, on cherche un logement, ok, voilà. Après, on visite un nombre de choses. Après, on prévoit le voyage suivant sans jamais vraiment faire quoi que ce soit de constructif. J'avais juste l'impression de me promener au bout d'un moment. Puis, j'arrivais pas à faire des photos comme je voulais. J'étais trop timide. J'osais pas aborder les gens vraiment de manière frontale. Et puis, des fois, de parler avec les gens sur place, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je disais, je sais pas, je visite. Puis, ah bon? Puis tes parents, pourquoi t'es pas avec eux? Je me disais pas que j'en avais pas, mais je me disais, ils sont en Suisse. Et puis, mais alors pourquoi t'es pas en Suisse? C'est vrai que je me disais, c'est un peu curieux, en fait, pourquoi je me balade comme ça? Puis aussi, l'autre chose, c'est que la musique me manquait trop, en fait. J'étais parti. C'était aussi parce que j'étais pas très sûr du chemin que je voulais emprunter. J'hésitais beaucoup entre la photo, la musique, etc. Pour moi, c'était une manière de me mettre à l'épreuve, de voir ce que ça pouvait être, que de bourlinguer, faire des images, écrire. Et je me suis rendu compte que c'était pas assez fort en moi, puis que la musique me manquait trop. Alors, je suis rentré en Suisse, j'ai travaillé pendant un mois pour me refaire des sous, et je suis parti à New York.
Voilà, donc embarquer l'instrument, prendre la cette
exactement.
Fois-ci avec le saxophone.
Avec le saxophone, cette fois.
Et débarquer à New York, donc toujours au début des années 90,
En 92, cette
fois. Vous connaissez des gens?
Je connaissais absolument personne, non. Je connaissais personne. Voilà, j'avais juste le rêve de cette ville parce que je savais que le jazz se passait à New York. Et puis, j'avais quand même pas tout à fait abandonné mes rêves d'études que j'avais pas pu faire jusque-là. Et je me suis inscrit aussi pour une session d'été à l'université de Berkeley en Californie, où je me suis inscrit en faculté de Ethnic Studies, ça s'appelait. Donc, c'était toujours lié un peu à mes intérêts pour l'anthropologie et l'ethnologie, etc. Mais le cours pour lequel je m'étais inscrit, c'était un cours, en fait, historique sur les discriminations raciales aux États-Unis. Et c'était un cours fascinant, en fait, qui était donné par un professeur qui était lui-même d'origine native, indienne, en fait. Ça tombait pile pour moi parce que j'étais fasciné par ces peuples-là aussi. Et donc, il avait beaucoup de choses à partager sur l'histoire de son peuple. Sa femme aussi, elle était 100% Cheyenne. Et donc voilà, c'était fascinant d'entendre l'histoire de son peuple. Et bien sûr, après, des peuples qui ont été importés aux États-Unis, comme on le sait, connaître la trajectoire tragique des esclaves africains.
Mais ça, Nicolas Masson, c'était donc un cours que vous suivez en été en Californie, à Berkeley. Mm-hmm. Et New York, vous y arrivez dans un second temps ? Vous êtes déjà...
Oui, je suis arrivé à New York d'abord. Donc, j'ai passé un mois à New York pour la musique, très clairement. Et puis après, moi, j'avais toujours ce projet un peu derrière la tête.
Donc, faire autre chose que de la musique aussi.
Faire autre chose. Parce que j'avais été très frustré de ne pas pouvoir faire des études avant ça. Comme je l'ai dit précédemment, cette espèce de boulimie, en fait, de lire tout ce que je pouvais, écouter tout ce que je pouvais pour un peu compenser. Donc, voilà, j'avais quand même cette envie d'étudier. Donc, je l'ai fait. J'ai fait ça, plus un cours intensif d'anglais aussi, parce que j'avais envie de m'améliorer en anglais. Mais le but premier, c'était bien sûr la musique, et puis c'était New York.
Et l'histoire raconte que quand vous arrivez à New York, le premier soir, vous allez écouter un concert et vous tombez, en sortant, sur Cecil Taylor.
Voilà, c'est ça. En fait, j'étais
l'un des papes quand même du free jazz, enfin du jazz du free jazz.
Oui, oui. Ben, en fait, c'est vrai, le premier soir, il y avait le big band de David Murray qui jouait, qui était le ténor du World Saxophone Quartet. Donc, c'était aussi pour ça que j'allais, parce que c'était mon grand héros. Et voilà, je suis allé écouter ce concert. Et puis, en sortant, c'était un club qui existe plus maintenant, qui s'appelait Count Dance. Je m'apprêtais à sortir du club et il y avait ce petit homme. Il était assez de petite taille avec des tresses, comme ça, dreadlocks. Il avait des bottes de cow-boy, un pantalon training jaune fluo, un t-shirt rose. Une allure vraiment pas possible pour le petit Suisse que j'étais. Et puis, il me regardait comme ça. Puis, je devais un peu le contourner pour pouvoir sortir du club. Puis, il me regarde. Puis, il me dit, tu joues de quel instrument ? Il me demande de but en blanc comme ça. Puis, je dis, je joue du saxophone et tout ça. Puis, on a commencé à discuter un peu. Et puis, comme j'avais mon dictionnaire du jazz et puis tout ça, je me sens le mec, je le reconnaissais, mais j'étais pas sûr. Et puis, comme il y avait pas mal de monde qui était là dans le bar après le concert, il y a une autre personne qui a entendu mon accent français, puis c'était un musicien, un batteur qui avait été en Afrique pendant quelques temps pour étudier la percussion, un peu à la recherche de ses racines. Il était afro-américain. Et puis, on a commencé à discuter. Et puis, je lui ai demandé. Et puis, je lui ai dit, mais ce serait pas Cecil Taylor. Oui, c'est Cecil Taylor et tout ça. Et puis, Puis, je lui ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où on peut rencontrer des musiciens, où on peut jouer et tout ça. J'étais un peu présomptueux, mais bon. J'avais en tout cas très envie de me confronter aux musiciens, voir ce que c'était vraiment. Puis, il m'a dit, écoute, si tu veux, demain, on se voit, on boit un verre ensemble. Et puis, on peut discuter. Puis, je peux te donner des adresses, etc. Voilà, ça s'arrête là, mon chapitre avec Cecil Taylor. Je ne l'ai plus revu, mais c'est quand même une rencontre qui m'a beaucoup marqué.
Une rencontre fondatrice, voilà. Quelque part, qui est de bon augure, en fait.
Voilà, je l'avais vu comme une sorte de signe céleste.
La bonne place.
Voilà, exactement.
Nicolas Masson, on va reparler de cette place new-yorkaise demain. Pour l'heure, on va refermer ce chapitre du premier grand voyage fondateur sur une musique. Qu'est-ce qu'on écoute ?
Qu'est-ce qu'on pourrait écouter ? J'ai bien envie de sélectionner un enregistrement de Cecil Taylor. Je vais regarder dans la discothèque et puis...
Merci beaucoup, Nicolas. Et à
merci,
demain.
À demain.
Mirror and Water Gazing de Cecil Taylor, tiré de l'album For Olim. C'est un choix de Nicolas Masson. La suite avec Bach. Prélude de la quatrième suite pour violoncelle en mi bémol majeur de Bach par Jean-Guillaume Carras. Des suites qui sont très importantes aux yeux de Nicolas Masson, dont nous suivons cette semaine le parcours de la vie à peu près. C'est une proposition Daniel Éveillé. Demain, il sera question de New York. La vie à peu près, c'est une coproduction Daniel Éveillé et Florence Grivel, assistée d'Audrey Zano, réalisée par Gilles Ozaman. À demain. Belle suite de journée à vous sur Espace 2.